Bonjour, je m'appelle Stéphane Allaire, je suis professeur en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Chicoutimi et responsable de l'équipe FRQSC sur le partenariat recherche pratique en éducation. Le podcast d'aujourd'hui, en fait, il s'inscrit dans le cadre de l'initiative Réfléchir l'éducation à voix haute et il réunit des enseignants et une conseillère pédagogique. Nous avons d'abord Sylvain Bérubé, qui est enseignant de français au secondaire à la Commission scolaire des Découvreurs. Ensuite, nous avons Sylvain Dancause, qui est enseignant de sciences et de mathématiques au secondaire à la Commission scolaire des Premières Seigneuries. Et puis enfin, nous avons Nathalie Couzon, qui est technopédagogue au Collège Le Tendre. Et puis, elle est également présidente et directrice générale des rendez-vous des écoles francophones en réseau. Mieux connu sous le nom des REFER. Alors, merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté de participer à l'activité. Réfléchir à l'éducation à voix haute, c'est une conversation qui est spontanée entre des intervenants du milieu de l'éducation à partir d'une question ou d'une thématique. Alors, aujourd'hui, nos intervenants vont discuter de ce que le confinement leur apprend, leur pose comme question, leur soulève comme réflexion à propos de la formation initiale des enseignants. Alors, la parole est à vous, qui souhaite briser la glace.
Je trouve que c'est une excellente question, mais en fait, je vais peut-être commencer un peu bizarrement avec ma réponse. Quand on parle d'enseignement puis de formation initiale, il faut d'abord définir là, qu'est-ce qu'un bon enseignant, qu'est-ce qu'on veut inculquer à nos futurs enseignants pendant 4 ans à l'université. Puis, par rapport au confinement, j'ai personnellement de la difficulté à faire le lien entre l'enseignement, exemple, ce qu'on vit là, l'enseignement à distance, si on parle de ça, là, mais puis le rôle réel d'un enseignant, puis ce qu'on veut inculquer à nos jeunes étudiants universitaires pendant 4 ans. Fait que pour moi, le lien entre les deux est pas tellement clair. Puis je vois pas personnellement d'effet par rapport à ça dans la formation là, universitaire en tant que telle. Peut-être qu'il y a des effets pour la suite des choses dans une carrière enseignante, là, mais par rapport au fait de former un étudiant pendant 4 ans, personnellement, moi, je vois peu d'impact par rapport à ça, là, en lien avec la situation qu'on vit présentement.
Je prendrais la balle au bond de ce que Sylvain vient de dire. Je réfléchis tout haut au fur et à mesure présentement à ce propos-là parce que tout d'abord, au départ, la situation de confinement, ce qu'elle a apporté, c'est en tout cas dans l'équipe de profs avec qui je travaille, c'est le besoin presque immédiat de se regrouper, de discuter de ce qui se passe, de comprendre ce qui arrive, pour après ça réagir ensemble le plus possible. Je pense, si, en tout cas dans notre équipe, mais où il y avait déjà une bonne cohésion, je pense que ça a renforcé la cohésion pour la suite des choses. Puis en se regroupant comme ça, puis en échangeant régulièrement, puis en se disant aussi des niaiseries à l'occasion, là, ça c'est sûr, parce que maintenant on a tous besoin de ventiler à travers cette affaire-là. Ça a amené comme une espèce de dynamique d'apprentissage, je dirais, ensemble. En tout cas, ça fait que moi, je le raconte un peu comme je l'ai vécu avec le reste de mon équipe. Puis en lien avec la formation initiale maintenant, ben la seule chose que je vois, ça serait d'essayer parce que ça a un peu ressorti aussi chez des collègues qui exercent depuis quelques années, puis d'autres qui exercent depuis de nombreuses années. C'est souvent, puis là, je glisse un peu dans la formation continue, puis je mélange un peu les deux, puis je le sais, là, mais ce que ça a apporté à ce niveau-là, c'est l'espèce de besoin de connaître mieux certains outils pour justement favoriser le contact à distance. En même temps que ça amenait plein de questionnements parce que c'est pas les gens qui sont tous rejoints de façon égale, etc. Mais là, on a constaté aussi que c'était pas tous les profs qui maîtrisaient finalement certaines façons de faire ou qui avaient besoin d'explorer à vitesse grand V puis d'apprendre aussi très, très rapidement. Par rapport à la formation vraiment initiale, donc pour ceux qui sont encore à l'université en train de peu importe à laquelle des quatre années ils sont, ben ce que je vois, c'est d'essayer de développer une espèce de capacité d'adaptation peut-être encore plus grande que ce qu'on pourrait penser. Peut-être aussi de développer aussi la capacité d'être autant en présentiel qu'à distance. C'est un peu sur le plan... essayer de développer ces capacités-là, c'est à peu près c'est le premier lien que je fais, finalement, avec la formation initiale. Puis le lien se transfère aussi avec la formation continue parce qu'on est tous en mode adaptation à grande vitesse présentement. Ça, c'est ce que je vois.
Moi, je vais rebondir sur les éléments qui ont été présentés par les deux Sylvains en disant que peut-être par rapport à la... Puis ce que je vais dire, ça va s'adapter autant en formation initiale qu'en formation continue. Je pense que c'est... moi, ce que ça m'a révélé, c'est la vision de sa propre professionnalité. J'explique un petit peu en faisant un lien avec... ce qu'a dit Sylvain en premier, c'est-à-dire que comme enseignant, comment on se voit, la perception de sa profession, hein, qu'est-ce que ça... Un petit peu, Sylvain, tu vas rire quand je vais faire ça, mais des exemples, oui, des attributs du concept, en fait, de ce que c'est qu'être un enseignant. Et donc, je pense que ça a ramené les enseignants qui étaient en place et qui vivaient dans cette situation de confinement. Beaucoup de questions par rapport à c'est quoi enseigner aujourd'hui, puisque le cadre qui est celui habituel de la salle de classe n'était plus là, la temporalité non plus n'était plus là, donc il y avait beaucoup de choses qui étaient absentes. Donc il fallait d'une certaine façon réimaginer ou réinventer ou en tout cas revenir à l'essence même de ce que ça veut dire qu'enseigner et apprendre aussi. Donc dans cette vision-là, on relève évidemment ce qu'a dit Sylvain, tout cet apprentissage informel qui se fait par le réseau, par la communauté des enseignants qui vont répondre à une situation d'urgence, là, l'appropriation des outils que moi aussi j'ai vu comme technopédagogue dans mon école, là, les premières demandes qui venaient c'était comment je peux faire, qu'est-ce qui va me permettre de faire ces choses-là que je ne peux plus faire de la même façon qu'avant. Donc, là, on met le doigt sur la culture de développement professionnel. Est-ce que ce sont des choses qui étaient présentes de façon, je dirais, plus reconnue ou en tout cas là déjà, préexistantes auparavant? Là, on va pouvoir en débattre. Et je pense aussi ce que ça a mis comme de l'avant, et puis ça rejoint la formation initiale et la formation continue, c'est la nécessité d'une forme d'ingénierie, ce que j'appellerais une forme d'ingénierie pédagogique, où ce que tu as dit Sylvain, la créativité, la capacité d'adaptation, réinventer tout la relation d'une autre façon, ça devient très important. Donc, moi, je pense que présentement, je le vois un petit peu de cette façon-là. Là, puis, je pense que ce que je viens de dire, ça rassemble aussi vos deux points de vue. Donc, moi, c'est ces aspects-là, là, du réseau, l'importance du réseau, la culture d'apprentissage et de développement professionnel qui sont liés. Et puis, cette idée que... On doit revenir vers les fondamentaux de la pédagogie, donc tout ce qui est de la conception, l'élaboration d'une séquence pédagogique. Puis on sait qu'en plus, à distance, c'est encore plus crucial de le faire.
Ben, exact. Si je reprends là, ce qu'on vient de parler un peu, là, il reste que ça reste de la technologie. Là. Je veux dire, la première question, c'est qu'est-ce qui fait que tu es un bon... enseignant ou une bonne enseignante. Là. À partir de là, après ça, ben, tu peux construire là-dessus, mais la prémisse de base, c'est quoi les qualités d'un bon enseignant? Après ça, la technologie, ça reste des outils qui ne feront pas de toi un meilleur enseignant nécessairement. Là. Je veux dire, ça reste des instruments que tu vas utiliser du mieux que tu peux. Puis là, ben, du mieux que tu peux, ça veut dire que ça sous-entend que tu t'es peut-être formé un jour dans ta vie. Puis là, ben, quand on revient à... C'est sûr que pour moi aussi, il y a un lien comme vous autres. Là, il y a un lien entre formation initiale et formation continue. Puis, 4 ans d'université, c'est à peu près 5% de ton temps dans le milieu de l'éducation. Là. Après ça, tu vas faire au moins 35 ans après, ce qui va représenter, grosso modo, pas loin de 90-95% de ta carrière. Là, tu peux pas, il ne peut pas y avoir une coupure après 4 ans et te dire, ben voilà, là, j'ai des acquis et je vais construire. T'sais. Puis s'il y a quelque chose que ça nous apprend, ça, je ne sais pas si ça se fait ou pas. Je n'ai pas les connaissances au niveau du bac en enseignement, mais c'est plutôt un questionnement, ce que j'amène là, non pas une affirmation, là, c'est un questionnement, mais est-ce qu'on développe chez nos étudiants universitaires un goût un goût, un respect de se développer tout au long de sa carrière? Là? Est-ce que ça, c'est encouragé? Est-ce que les étudiants, pendant le bac de 4 ans, vont avoir conscience qu'après ça, quand tu vas sortir de l'université, ben, ta formation continue, elle est indispensable et essentielle? Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il y a un respect pour aussi la littérature scientifique? Est-ce qu'il y a un respect, puis un... Parce que des fois, je ne suis pas certain qu'il y en a un tant que ça dans nos milieux de travail. Là. Fait que ça, c'est une autre histoire, là. Mais fait que je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là aussi. Là. Ça, disons que ça fait le tour de ce que je pensais en ce moment même. Mais ce n'est pas des questions si simples que ça. Là, mais,
Écoutez, moi, je vais vous relancer à partir de ce que j'entends. Vous avez probablement des collègues d'âge différents, dont peut-être des collègues en début de carrière qui sortent de l'université depuis, je ne sais pas moi, un an, deux ans, trois ans, qui sont quand même encore assez proches du milieu universitaire. Avez-vous l'impression qu'ils sont aussi habiles que vous pour vous débrouiller et vous adapter dans le cadre de la crise actuelle? Bon, puis toi, Nathalie, là, on comprend que tu as un rôle là, un peu plus de conseillère pédagogique. Si tu compares, entre guillemets, les enseignants qui ont plus de vécu dans le milieu par rapport à ceux qui sortent depuis quelques années de l'université, est-ce qu'il y a des distinctions à faire?
Moi, ce que je vois, en tout cas, mon rôle de technopédagogue, c'est quelque chose de nouveau aussi dans ma carrière professionnelle. Mais j'ai quand même été aussi dans le passé en accompagnement pédagogique à l'occasion de différentes collaborations au ministère de l'Éducation. Donc, j'ai quand même vu des enseignants un petit peu de tous âges. Puis, je pense pas vraiment que ça soit une question d'ancienneté dans la profession. En tout cas, de ce que moi, j'ai pu voir comme expérience avec des enseignants qui, en fait, si on se ramène aussi avec l'intégration des technologies, okay, j'ai travaillé avec des enseignants qui étaient des enseignants d'expérience qui n'avaient pas forcément encore, qui ne s'étaient pas encore appropriés cette dimension numérique dans leur enseignement. Mais ça ne faisait pas forcément d'eux des gens résistants ou c'était pas... puis Sylvain pourra en témoigner, on a travaillé ensemble aussi, mais bon, je classe pas Sylvain dans la catégorie des enseignants résistants aux technologies, évidemment. Mais je pense pas que ça soit une question d'âge. Et puis j'ai aussi été appelée à évaluer, entre guillemets, là, certains projets dans des programmes à l'université. Et puis, ce qui m'a toujours un petit peu, je dirais, questionnée, c'est justement un petit peu ce que tu disais, Sylvain, c'est que des fois, on fait passer l'outil avant la pédagogie. Et moi, ça a toujours été un leitmotiv pour moi, c'est que l'outil n'est pas une fin en soi, parce que les outils, on le sait, ils sont multiples, ils sont, je dirais qu'il y en arrive à tous les jours, et puis que faire un choix, c'est ce qui, en ce moment, présentement, souvent, moi, ce que je vois dans le, la réaction ou dans les demandes que je reçois de la part de certains enseignants, ils ne me disent pas « Nathalie, donne-moi plusieurs options ». Ils me disent « Nathalie, je veux une solution ». Donc, il y a plutôt ce sentiment d'urgence aussi en ce moment qui vient un peu teinter aussi les demandes et qui pourrait être différent dans un autre contexte. Moi, de ce que je vois autour de moi, il y a des enseignants dans mon milieu qui sont des enseignants d'expérience et qui sont très ouverts à réfléchir, à modifier leurs pratiques. Et puis, il y a des jeunes qui viennent de sortir et qui sont, je dirais, peut-être déjà pris dans un cadre qui est un peu monolithique. En tout cas, c'est très variable. Donc, je pense que c'est pour ça que ce que j'amenais tantôt, c'était pour moi, c'est important de revenir à ce que disait Sylvain. Aujourd'hui, un enseignant au 21e siècle, quelle devrait être d'une certaine façon sa posture, sa façon d'envisager sa profession, sa façon d'envisager aussi le rôle de ses élèves dans la classe, parce que tout ça va conditionner aussi des réponses de ce que lui va mettre en œuvre. Donc, je vais laisser mes amis intervenir là-dessus. Ouais.
J'allais dire, il n'y a pas vraiment d'âge. T'as des enseignants d'expérience qui sont rigides, puis tu en as d'autres qui le sont moins, ou tu en as qui s'adaptent plus facilement. Puis même chose chez les plus jeunes enseignants, ou même ceux qui sont à mi-carrière environ, ou peu importe la tranche de le nombre d'années d'expérience qu'on leur donne. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'enseignant qui commence, ça c'est une observation que je fais souvent sur le terrain, puis je la fais chez des stagiaires aussi, mais chez ceux qui commencent aussi, c'est de réussir à tenir le fort pendant une année scolaire avec souvent des tâches à plusieurs niveaux. Ben là, je parle au secondaire parce que c'est là où je suis. Des tâches à plusieurs niveaux qui sont changeantes. Commence l'année avec un certain pourcentage de tâches, tu augmentes à l'autre après ça. Juste se sortir la tête de l'eau dans ce contexte-là, c'est déjà un exploit en soi. Ça fait que le reste, après, ben ça vient après. T'sais, ça, c'est ce qui limite, je pense, la capacité des enseignants en début de carrière. C'est la bien, est-ce qu'on devrait leur donner des tâches bonbons pour autant? Là, je suis pas dans ce débat-là du tout, mais juste la constatation du début de carrière avec ce que tu as à faire, puis le stress aussi de savoir qu'est-ce que tu vas faire de chaque rentrée scolaire. Là, cette année, ça va être plus ou moins virtuel en nous. J'ai hâte de voir ça, puis j'ai pas hâte en même temps. Alors, toute cette espèce de contexte-là fait en sorte que ça vient un petit peu teinter. Donc, est-ce qu'il y a un âge ou pas pour... Je crois pas. Par contre, le début de carrière étant ce qu'il est, ben il y a des choses qui sont pas facilitées sur ce plan-là. Ensuite de ça, bon, ce qu'on devrait... L'autre truc qui me venait en tête aussi, c'est que pendant cet épisode-là de pandémie, un des constats que j'ai fait, puis j'en ai parlé sur les réseaux avec plusieurs, donc Sylvain m'a sûrement lu à un moment donné là-dessus. Là, on a des élèves qui sont à distance. On en a qui sont décrocheurs. On en a qui... Il y en a qui voulaient avoir des exercices tout de suite le 13 mars au matin, au matin de la tempête qui a précédé la fermeture officielle. Donc, tout ça fait en sorte que ces élèves-là... La question principale qui me préoccupe chez ces élèves-là, c'est leur motivation. D'où vient cette motivation-là? Comment conserver cette motivation-là? Quel genre de motivation il y avait avant? Puis là, je glisse très rapidement vers les sacro-saintes notes parce que là, est-ce que ça compte? Est-ce qu'il y a un calcul? Est-ce qu'il y a un chiffre? Est-ce que c'est évalué? Puis évaluation égale automatiquement à note dans la tête de plusieurs élèves, dans la tête de plusieurs parents. Puis ça, ben, ça me questionne vraiment beaucoup dans le contexte de la pandémie, là, toute cette espèce de motivation intrinsèque qui est plus ou moins présente, qui est plus ou moins... parce que les élèves ne sont pas nécessairement engagés eux-mêmes dans ce qu'ils ont à apprendre, mais sont plutôt... c'est plutôt le syndrome de la carotte au bout du bâton là, que représente la note pour plusieurs d'entre eux. Alors là, puis en plus, ben, ils se sont fait dire pendant 2 semaines qu'ils étaient en vacances. Après ça, la consigne a changé, mais il y en a qui sont restés collés à ces vacances-là, etc., etc. Ça fait que là, l'évolution de la situation me questionne beaucoup. Voilà.
C'est ça. Tu vois aussi que, tu sais, pour reprendre un peu ce que vous avez dit, mais je continue à penser à tout ça, là, qu'on est pris, quand tu parles des notes, exemple, mais tu vois qu'on est pris dans une espèce de carcan, qu'on est pris dans des habitudes qu'on ne questionne plus, puis qu'on pose des gestes, un geste machinal, puis tu donnes l'exemple des jeunes avec les notes, mais on le voit aussi là, quand on est arrivé avec du télé-enseignement, entre guillemets, là, on n'exagérera pas sur les termes, là, je vais le mettre en guillemets, le télé-enseignement, mais tu vois qu'aussi il y a des adultes, donc des profs, ou peu importe là, leur rôle dans l'école, qui avaient la difficulté à concevoir qu'on n'était plus sur un horaire de 9 jours, des cours de 75 minutes, que là, peut-être que tout ça, ça tombait, puis qu'on était dans un autre monde, dans un monde qui était différent du monde précédent. Quand tu parles d'un horaire sur 9 jours, quand tu parles de 4 périodes par jour, quand tu parles des notes, de la motivation intrinsèque, de la motivation extrinsèque, il y a plein de choses que tu dois remettre en question, puis tu dois te positionner différemment. Puis ça, tantôt, on parlait d'âge, bien, peu importe l'âge, bien, c'est pas toujours facile de se remettre en question, puis c'est pas toujours facile d'arriver avec des réponses non plus. Des fois, les réponses, tu les veux pas, tu sais, ça te tente pas de changer tant que ça, là, tu sais, c'est difficile, ça prend des efforts, ça prend de l'humilité, c'est pas toujours évident, puis c'est pas facile, là. Donc là, on est un peu là-dedans, puis ça soulève tout plein de questions sur plein de choses. Là. Tu parles de l'évaluation, ça, c'est un dossier qui est chaud aussi. Puis il y en a plein d'autres là, qu'on pourrait remettre en question. Là. Mais moi, je trouve aussi que c'est ça. Puis si on revient à la formation initiale, c'est d'avoir cette capacité-là à se remettre en question, ce désir-là tout au long de ta carrière, là, autant quand tu as 20 ans, 21 ans, 22 ans, jusqu'à temps que tu sois rendu à 40, 45, 50, peu importe, mais tu as toujours... challenger ta pratique, puis de toujours essayer de te positionner en te questionnant et non pas de vivre dans une boîte rigide, dans un carcan que tu penses qui est immuable. Tu sais. Donc, moi, c'est plus ça aussi que je réalise là, depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, on est rendu.
Oui, la seule stabilité, c'est le changement finalement.
Oui, c'est ça. Puis moi, tu vois, Sylvain, je rebondis sur ce que tu disais aussi par rapport à. L'aspect de l'abandon aussi de la profession. Tu sais, on sait que tu sais, tu parlais des jeunes en début de carrière, puis on sait que il y a plein de recherches qui en parlent de l'abandon en fait dans les 5 premières années de leur carrière des jeunes enseignants. Donc on imagine que ces gens-là ont investi 4 ans de leur vie à apprendre un métier. Et puis, ils se lancent dans le métier. Et puis, dans les 5 ans qui suivent, il y en a 25% qui ne sont plus là. D'où la pénurie d'enseignants. Donc, moi, je me pose aussi la question, quel effet tout ce qu'on est en train de vivre va avoir, quel va être l'impact aussi sur l'accessibilité à la profession? Est-ce qu'il va y avoir une pénurie encore plus grande que celle qu'on connaît déjà? Est-ce que le métier va réussir à recruter d'une certaine façon? Moi, ça m'inquiète parce que là, on voit que les conditions sont... Les gens sont pas prêts, n'étaient pas prêts à vivre ce qu'on est en train de vivre. Donc, d'une certaine façon, on vit aussi au sein même des enseignants une fracture très, très grande entre ceux qui avaient déjà fait un virage technologique numérique et qui ont été, je dirais, moins ébranlés dans la mise en œuvre de dispositifs pour leurs élèves, et puis ceux qui n'avaient rien fait ou qui avaient fait très peu de choses et qui, là, se sentent dépassés et pour utiliser une expression qui a eu un certain succès sur les réseaux sociaux, dont la tolérance à l'ambiguïté est très, très fortement... sollicité en ce moment. Donc, moi, je me dis, bon, ben, quelle motivation pour les jeunes à choisir cette profession, sachant tous les défis qui sont devenus comme très visibles là, tout à coup par la situation qu'on vit. Et puis aussi, pour ce que vous soulignez par rapport à l'évaluation, aux notes, moi, je veux dire, je le vis cruellement en ce moment parce que je suis un parent et en même temps, je suis une pédagogue. Et en ce moment, j'ai un enfant à la maison qui a été parmi ses élèves qui a très bien entendu le discours ministériel le 15 mars et dont les moyens qui ont été mis en place par son école n'ont pas été suffisants pour le ramener, disons, dans un cadre. Et moi, j'étais un parent qui travaillait à la maison à 100% à essayer de mettre en place ce cadre-là pour mes propres enseignants et les propres élèves de mon école. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'espèce de paradoxe presque... c'est même plus Corneille, là. On est presque dans Racine, quoi. Donc moi je vivais un truc complètement fou, c'est-à-dire que je mets en place une structure pour l'enseignement à distance pour mon milieu et je ne suis pas capable comme parent ou comme pédagogue même, parce que je suis submergée aussi par les demandes, de procurer ça à mon propre enfant. Donc je comprenais tout le désarroi des parents qui sont à la maison et qui étaient bien mal pris avec tout ce qui était là. Et je comprenais aussi le désarroi de mes collègues enseignants qui vivaient aussi ce double tiraillement, cette double tension. On est vraiment dans un drôle de monde. Et à tous les jours, j'ai comme une question supplémentaire qui s'ajoute à la liste des autres qui n'ont pas été résolues. Mon cerveau travaille fort en ce moment.
Moi, Nathalie, je reviendrai sur le début de ton propos par rapport à la formation initiale, justement. Là, puis est-ce que ça, quel est impact, quel effet ça aura sur les gens qui veulent s'inscrire à l'université et devenir peut-être un jour enseignante ou enseignant? Je trouve que c'est une excellente question parce que, tu sais, en tout cas, généralement, l'enseignement, c'est une profession qui est très humaine, qui est très axée sur l'humain. Tu sais, on connaît l'importance de la relation prof-élève. Puis, il y a comme une espèce de contradiction entre le fait d'être en ligne avec des élèves ou être à distance, puis en même temps, dire que c'est une profession qui est infiniment humaine, dans lequel le relationnel est indispensable pour aider l'élève à cheminer. En tout cas, au secondaire, c'est vrai, au primaire aussi. Là. Il y a comme pour moi une espèce de paradoxe là-dedans qui vient me chercher, parce que pour moi, la relation avec mes élèves, c'est quelque chose qui est primordial. Puis on dirait que je perds un peu ce contact-là, cette chaleur-là, ce besoin de cohabiter avec ces ados-là dans ma classe. Là, t'sais. Fait que, je ne sais pas qu'est-ce qui te pousse à devenir enseignant, mais je dirais que c'est ça, pour moi, il y a une espèce d'heureux problème ou de triste problème dans tout ça.
Peut-être en conclusion, si je vous demandais brièvement, si vous aviez une recommandation, une seule affaire pour bonifier la formation initiale des enseignants, ça pourrait être quoi? Une recommandation inspirée de ce qu'on vit depuis la mi-mars?
J'aurais de la difficulté à résumer ça en un seul mot. Mais pour moi, je pense que c'est d'avoir une culture ou de développer en tout cas un sens d'adaptabilité. Donc, d'être capable de se dire que après 4 ans de formation, j'ai pas encore atteint le maximum de mes capacités. Là. J'en ai pour 35 ans à apprendre, à me perfectionner, à avancer, d'avoir un respect pour les meilleures méthodes, des stratégies d'enseignement, d'avoir un respect pour les meilleures façons de gérer une classe, puis de s'intéresser, de se documenter, puis de se former. Là. Je pense que c'est d'y aller dans ce sens-là. Là.
Tout à fait. C'est ça. Moi, j'allais dire la capacité d'adaptation. C'est un, c'est un essentiel incontournable. J'étais là-dedans moi aussi. En même temps, tout à fait d'accord aussi avec le fait de rester quelqu'un qui est toujours en processus d'apprentissage. C'est pas parce que tu as un bac de 4 ans qu'après ça, ben là, je clôt les apprentissages et voilà, c'est terminé. Maintenant, je fais mes. Hey, là, c'était peut-être vrai en 1971, là, mais c'est plus vrai aujourd'hui. Tout évolue tellement vite, puis en contexte, dans le contexte dans lequel on vit, c'est encore pire. Ça fait que la capacité d'adaptation, le rester toujours quelqu'un qui est en apprentissage, puis aussi, en même temps, l'autre truc, je suis en train de le perdre, mais je vais le retrouver, c'est de jamais espérer qu'une solution unique va régler tous les problèmes. Ça, c'est de moins en moins vrai, puis encore plus là, présentement, je pense qu'on l'expérimente assez rapidement. Merci, tu sais, on a juste à penser, je donne un exemple qui me passe par la tête. Présentement, on est sur Zoom. J'ai des élèves qui sont sur Classroom avec plusieurs enseignants, ça fait qu'avec moi aussi, puis là, c'est Google Meet qui vient compléter ça, puis tout ça. Puis avec notre direction d'école, on se réunit avec un troisième outil, tu sais, ça fait que ça continue tout le temps. Il n'y a pas une solution unique, il y a des avantages à chacune. Là, je prends juste un outil comme ça pour se parler, mais tu peux multiplier ça à l'infini.
Moi, je dirais aussi, c'est bien embêtant de trouver un mot, mais moi, si j'avais un rêve pour le futur de la formation initiale, ce serait de bonifier tout l'aspect du mentorat ou du tutorat, je sais pas, d'alléger l'entrée dans le métier par un accompagnement qui soit vraiment de qualité et que donc, en tout cas, je prends un petit peu l'exemple. Moi, vous savez, je suis française d'origine, donc ma formation pédagogique, elle vient en fait de ce que j'ai fait en France. Dans le temps, en tout cas, je ne sais pas si ça fonctionne encore comme ça autrefois, mais notre première, quand on réussit les concours d'enseignement en France, donc on a un engagement quinquennal avec l'État. Et donc, la première année de notre... On est en stage. Et dans notre stage, on a un groupe classe à temps complet. En tout cas, c'était comme ça il y a plus de 20 ans. Et on a un prof qui est notre comme notre mentor, qui est avec nous, qui est dégagé aussi de temps pour pouvoir élaborer, collaborer et tout ça. Alors, je sais qu'il existe les stages en enseignement ici au Québec. Mais moi, je pense que... Quand ça fait partie de la formation initiale, ça devrait être reconduit aussi dans les premières années d'entrée dans le métier pour éviter cet effet de tsunami qui est complètement chronophage, qui fait qu'on ne peut plus penser, on peut plus être dans une pensée pédagogique qui s'actualise, qui s'enrichit, qui s'alimente aussi encore de la veille, du réseau, des recherches, etc. Donc, c'est comme s'il y avait... On formait des gens et puis on les envoie dans une autre réalité. Puis je trouve ça inconcevable. Donc, si moi, j'avais une baguette magique, là, puis qu'on me dise, tu peux changer l'entrée dans le métier à ces jeunes profs pour faire d'eux, justement, des gens qui vont avoir cette culture de développement professionnel comme une constance de leur profession et qui vont pouvoir eux aussi alimenter. Moi ce serait vraiment ça. Puis je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit aussi les gars là. Et cet aspect de mentorat puis de tutorat, ça vient entretenir aussi la relation qu'on a comme équipe. On parle beaucoup d'équipe école au Québec. Et puis là, le ministre nous dit que si on réussit tout ce qu'on va réussir, c'est parce qu'on a des équipes écoles formidables. Mais ces équipes écoles formidables-là, elles sont tissées serrées parce que justement, elles savent que parfois, elles n'ont pas le choix de faire autrement pour réussir. Donc moi, je lève mon chapeau à tous les gens qui sont retournés en classe aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait depuis 15 jours pour que ça se passe bien pour les élèves, parce que c'est pour eux qu'on le fait. Et puis, je tire aussi mon chapeau à tous les enseignants qui ont osé plonger et se faire, se donner le droit d'essayer des choses nouvelles parce qu'en ce moment, comme tu l'as dit, Sylvain, la seule chose qui est constante, c'est le changement. Donc, je pense qu'il faut avoir cette capacité d'adaptation-là comme une de nos premières qualités. Et voilà, ce serait un petit peu mon mot à moi un peu long.